CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Foucault Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.p-o-u-r-r-i@simpatico.ca.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions qu'il faut demander, et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Et oui, la rentrée 2018-2019 est bien entamée à CUT 89,5 FM, votre radio. Et oui, et votre émission en langue française depuis 32 ans. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. 32 ans déjà que Popori Show et ses partenaires vous proposent des aventures, des escapades, des échappées, des expériences inédites entre culture et francophone. Que nous réserve la nouvelle année ? Qui sont nos partenaires de choix? Quelle sera la place réservée aux écrivains, aux cinéastes, aux comédiens, aux artistes, aux femmes? Quels sont les enjeux? Pourquoi certains auditeurs, certains immigrants francophones remettent en question le leadership des politiciens et des chefs de file de certains organismes francophones? Suite au brouhaha entre Queen's Park et l'Hôtel de Ville de Toronto, quelle sera la place accordée aux francophones, qui sont les défenseurs, les vrais défenseurs des droits des francophones de la grande région de Toronto? Avec le réchauffement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes, que font nos gouvernements? Eh oui, que font-ils? Selon vous, est-ce que nos gouvernements en font assez pour améliorer le climat social, le sort des réfugiés et des immigrants? Pouvons-nous, devons-nous leur faire confiance? Vous êtes femme, nouveaux immigrants, étudiants, membres de la communauté LGBTQIA ou personnes âgées? Quels sont vos organismes, vos médias ou vos services préférés? Et oui, chaque dimanche, Popori Show, avec ses collaborateurs et ses médias partenaires, vous invite à faire partie d'un voyage intercontinental de 11h à 13h en direct sur www.cut.fm. Pour nous joindre, popori@cut.fr. L'été ne se termine jamais vraiment. Il change simplement d'endroit.
des amis javanais.
J'avoue, j'en ai bavé pas fou.
J'ai des amis au Portugal.
Hola,
j'ai
está?
Des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, bravo!
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello?
Bonjour!
Tant que la terre sera ronde, j'irai au
ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Voir d'autres êtres humains.
Ailleurs.
Ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Eh oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Liane, Ariel, Geneviève, docteur Darago. Eh oui, beaucoup de gens, hein. Peggy, je vois Ahmed. Et aussi tous nos invités, les artistes, les membres des médias étrangers partenaires qui sont de passage à Québec et à Toronto cette semaine et la semaine prochaine et à Miami. On sera avec eux. Dans une semaine, joyeuse fête de l'Action de Grâce, Potpourri Show, en partenariat avec Radio France Internationale, TV5 Monde, Ciné Franco, la maison d'édition Prise de Parole, Patricia Cano et La Fièvre du vendredi soir, au ROM, le Musée Royal de l'Ontario, jusqu'à 13h. Eric Adair, je vous rendez-vous, le DJ, avec vous, jusqu'à 13h, sur www.potpourrishow.com. Et oui, le menu pour ce dimanche d'Action... Eh, bonne fête d'Action de Grâce. Hein. Oui, nous avons reçu beaucoup de messages. Je m'excuse si je suis un peu en retard, mais ça ne dérougit pas depuis cette semaine concernant cet entretien avec nos invités. Eh oui, les futurs conseillers, conseillères scolaires. Je vais voir hein, s'ils peuvent répondre à nos questions, s'ils ont l'étoffe d'être nos élus. Et oui, en ce dimanche 7 octobre, Haïti frappé à nouveau par un terrible tremblement de terre hier soir. Bilan, plus de 10 morts et des centaines de blessés de sans-abri. Nous sommes de tout cœur avec le peuple haïtien. Merci à Amélie Baron qui m'a réveillé à 3h du matin, mais t'en fais pas. Elle est bien sûr la correspondante de Radio France Internationale sur place à Port-au-Prince. Ciné Franco vous donne rendez-vous. C'était le grand lancement. Malheureusement, j'étais absent de la ville. Et oui, jusqu'au 13 octobre, je vous invite à aller savourer, admirer, apprécier les thrillers, les polars, les comédies et les drames au cinéma Carlton. Merci à Marceline et toute son équipe. Bien le bonjour à l'équipe. 19 longs métrages qui vous feront frémir, rire et voyager à travers la francophonie canadienne, européenne et africaine. Une séance de courts métrages en présence de certains réalisateurs franco-canadiens. Je vous rappelle que nous avons encore quelques billets pour certains films disponibles. Merci aux gagnants et aux gagnantes. Hein, ils étaient nombreux. Et au plaisir de vous voir nombreux lors de ce... C'est quand même la 21e festival. Hein, 21e édition. de Festival international du film francophone de Ciné Franco. Allez sur le site pour réserver vos billets et regarder la programmation jusqu'au 13 octobre prochain, www.cinéfranco.com. Notre invitée aujourd'hui, Claudia Hébert, réalisatrice de deux courts-métrages, Roadmap et Petite Faille. Elle sera au cinéma Carlton mercredi soir, elle sera des nôtres. Avant la fin de cette émission, c'est promis, nous avons un décalage en ce moment. Et à l'approche des élections municipales et scolaires du 22 octobre prochain, nous ouvrons notre antenne, comme à l'accoutumée, à certains candidats francophones. Parmi les questions, quel est le rôle des conseillers, des conseillères scolaires et municipaux ? Eh oui, très important, beaucoup de questions à ce sujet-là. Et au-delà de leur engagement, quels sont les enjeux pour les citoyens francophones ? Et nos écoles sont-elles inspirantes ? Comment les écoles s'adaptent-elles à la diversité des élèves ? Parmi nos invités, Geneviève Auger, candidate au poste de conseillère conseil scolaire Via Monde pour la zone ouest de Toronto. Docteur Youssouf Kalogo, candidat au poste de conseiller pour Toronto 2. Et malheureusement, Ariel Kayabaga, candidate aux élections municipales de London, quartier 13, vient de nous appeler. Malheureusement, elle est indisposée aujourd'hui. Alors, je vous souhaite un prompt rétablissement, cher Ariel. Et puis, invitation spéciale de notre ami José Durand-Lau, qui vous invite à aller au concert de Patricia Cano. Je l'aime, elle chante en espagnol, en français, en anglais, portugais. Une facilité inouïe, voix sensuelle, puissante, subtile, féroce. Une artiste franco-ontarienne. Elle est espagnole, mais elle est dans la région de Sudbury. Elle nous écoute en ce moment sur le net. Elle sera en concert le 13 octobre prochain à Al Green Theatre à Toronto, accompagnée de la Canadian Sinfonietta et de son quinquette habituel. Une paire de billets vous attend, madame, monsieur. Envoyez-nous un message, n'appelez pas, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm ou encore allez sur son site www.patriciacano.com. Deux billets vous attendent aujourd'hui. Voilà, le message est passé. Et dimanche prochain, en hommage à Charles Aznavour, quelle grande perte, ce géant de la chanson française nous a laissé lundi dernier ou dimanche soir. Et je vous invite à partager vos souvenirs, vos chansons préférées. Nous envoyez un message à popourri@cut.fm dimanche prochain. À ne pas rater, hommage à Charles Aznavour. Popourri Show, 32 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence. Merci. Oh, vous êtes fort. Les buzz de nos médias partenaires. Merci aux chers parents qui sont là, les étudiants, ils sont arrivés comme ça. Il y a beaucoup de visiteurs à Hard House Studio aujourd'hui et ils prennent des photos. Non, attention. Hein. De hashtag ONFR, l'autopsie des dernières élections au Québec, la débarque du Parti libéral du Québec. Y a-t-il des parallèles avec l'Ontario et le Nouveau-Brunswick? Ton article à lire absolument sur hashtag ONFR. Baisse de la publicité fédérale, manque de ressources sur le terrain. La situation n'est pas tout rose pour les journaux et radios de langue officielle en situation minoritaire. Pourquoi ne pas les appeler les radios, les médias communautaires? Petite nouveauté, il y aura 58 places de stage dans des stations de radio et chez les éditeurs de journaux débloqués d'ici les mois prochains. Et oui, c'est le fruit d'un accord conclu avec la Fédération de la jeunesse canadienne française pour une enveloppe sur 5 ans de 4,5 millions de dollars. Et en parlant de stage, je ne peux pas tout dévoiler, mais nous sommes en pourparlers avec une aile de l'Université de Toronto. Ça n'a rien à voir avec la direction de département de français à l'Université de Toronto. Je suis très fâché contre eux. Ils sont complètement absents. Ils n'ont rien fait pour la journée des franco-ontariennes, des franco-ontariens. Ils font rien pour la journée internationale de la francophonie. Où sont-ils? Ah, nous manquons terriblement, cher Pascal et Daniel Issa-Sayeg, professeur qui est actuellement à Nice, qui nous a envoyé un message dans le cadre des célébrations de l'Action de grâce. Vous nous manquez tellement, Daniel. Et oui, donc nous sommes en train de concocter quelque chose avec le département de français de l'Université de Toronto dans la région de Scarborough pour un échange de stage pour aider, faciliter les étudiants universitaires à pratiquer leur français, à avoir accès à des ressources en français et accès à tous nos partenaires et rencontrer les gens de la communauté, aller voir un film à Ciné Franco et discuter avec des auteurs, des écrivains, pourquoi pas. Ça s'annonce très intéressant. Et oui, des membres de la communauté congolaise de la grande région de Toronto célébraient hier, samedi, leur réussite. L'occasion parfaite pour réaffirmer la place des Congolais en Ontario, selon la fondatrice de l'organisation Communauté Excellence, Reconnaissance, Sandra Sassa, qui sera bientôt à l'émission. La mission de cet événement annuel est d'influencer de façon positive la population congolaise croissante en Ontario et peut-être aussi sensibiliser les francophones, les francophiles, pourquoi pas. La reconnaissance des talents et des initiatives des membres de leur communauté, très belle initiative, bravo. Et puis, dossier santé cette semaine, très bonne nouvelle, les parlementaires ontariens ont adopté à l'unanimité, jeudi 4 octobre dernier, la motion de la députée conservatrice Amanda Simard visant l'insertion de la variable linguistique dans la carte santé. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a en effet fait une recommandation dans son récent livre blanc sur la santé. L'objectif est de planifier plus efficacement l'accès aux services de santé en français. La possession de données probantes étant cruciale à la prise de décisions éclairées. L'utilisation d'une carte à santé indiquant qu'un usager est francophone y contribuerait. Qu'est-ce qu'on en fait avec la carte des électeurs pour les élections scolaires et municipales? Je l'ai dans ma poche. C'est en anglais seulement. Eh oui. Je vais poser la question à mes candidats, les invités qui seront à l'émission aujourd'hui. Bring identification, voter qualifications. Il n'y a rien en français dans tout ça. Le 22 octobre. Eh oui, les obsèques du chanteur français Charles Aznavour, décédé lundi à 94 ans, ont été célébrées samedi à la cathédrale arménienne Saint-Jean-Baptiste à Paris, avant l'inhumation du défunt dans le caveau familial. Dimanche prochain, nous rendrons hommage à Charles Aznavour. Je vous y invite. Eh oui, est-ce que nous aurons Chantal Hébert tout de suite ou à 12h30? Midi 30, très bien. Alors, dans un instant, nous allons passer à d'autres nouvelles de la communauté. Si vous avez des questions pour nos candidats, encore une fois, aujourd'hui, c'est un peu une émission décalée dans le cadre des élections scolaires et élections municipales du 22 octobre prochain. Pas raté.
Installés leur tréteau, ils ont dressé leur estrade et tendu des calicots.
Les minables cachaient la mise à porter, les petits meubles, les maigres repas. Vous voyez déjà en photographie.
Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis. Et pour un temps, je n'aime que toi, et pourtant, je n'aime que toi.
Et
dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme.
Ah oui, oh. Les meilleurs succès de Charles Aznavour. Le dimanche à 14 octobre prochain, Popurri Show rendra hommage à Charles Aznavour, géant de la chanson française, décédé à l'âge de 94 ans. Dans la nuit de dimanche 30 septembre, l'icône de la culture française. Il était connu pour de nombreuses chansons marquantes, La Bohème, La Mama ou Emmenez-moi. Il laisse derrière lui une discographie monumentale. La preuve, en 1996, l'œuvre intégrale de Charles Aznavour était ressortie dans un coffret collecteur, 33 CD pour un poids de 8 kg. Artiste complet et engagé, Charles Aznavour est une figure majeure de la chanson française, voire internationale. Dimanche 14 octobre, prochain à ne pas rater, hommage à Charles Aznavour sur CUT 89,5 FM. Partagez-nous vos souvenirs, vos chansons préférées en nous envoyant un message à popourri@cut.fm. Et bientôt à l'émission, nous allons recevoir une écrivaine fêtée, Kim Biopi, auteur d'un conte intitulé « Niota, le secret de la plume » aux éditions L'Harmattan, femme engagée dans la francophonie ontarienne, fêtée et directrice générale de Sophie Franc et siège au conseil des gouverneurs de l'Université de l'Ontario français. Fidèle à la démarche artistique et sociale qui l'a fait connaître dans la région du Niagara en Ontario, Madame Kim Biopi a écrit ce roman qui est une ode à l'imaginaire africain tout en faisant appel dans la construction de son récit à des thématiques universelles. Usant de son expérience et de ses connaissances, elle travaille pour le rapprochement de diverses communautés francophones de l'Ontario et toute l'équipe souhaite très chaleureusement la bienvenue à Madame Kim Biopi bientôt dans notre émission. Et c'est la rentrée littéraire. Nous avons un partenariat pour la saison avec la maison d'édition Prise de Parole qui vous offre aussi beaucoup de cadeaux. Et la semaine prochaine, nous recevrons Dr Pierrot Ross Tremblay, auteur de Nipi Manitou, l'esprit de l'eau, une poésie spirituelle, mystique, de l'effondrement, écrite dans l'urgence de tout dire. Et oui, monsieur Ross Tremblay, professeur au département de sociologie de l'Université Laurentienne à Sudbury en Ontario. Ses recherches portent sur la mémoire et l'oubli, les traditions juridiques de l'autodétermination des premiers peuples. Et merci encore à la maison d'édition Prise de Parole. Vient de paraître, l'écrivain Dany Laferrière sera aussi à l'émission la semaine prochaine, membre de l'Académie française. Il réédite l'un de ses ouvrages majeurs, Un pays sans chapeau, dans lequel il retourne en Haïti sur les traces de son enfance et du pays où l'imaginaire remplace le pays réel face à la fatalité. Et encore une fois, nous sommes de tout cœur avec les sinistrés, les victimes de ce séisme, tremblement de terre hier soir en Haïti avec plusieurs morts et des centaines de sans-abri et de blessés. Dimanche le 21 octobre prochain, Innovons ensemble, partenariat, collaboration et innovation sociale. C'est le thème choisi pour le prochain congrès de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui se tiendra du 26 au 28 octobre à Toronto. Mais oui, à Toronto, il faut y participer. Hein. Inscrivez-vous immédiatement, allez sur le site monassemblée.ca/formulaire-congrès-2018. J'espère que nous aurons l'occasion et le plaisir d'accueillir à nouveau monsieur Carole Jelin, président sortant, mais il veut être réélu à nouveau. Alors, on verra bien. Et aussi Alain Mabankou, qui vient de sortir un dernier livre, un roman, « Les cigognes sont immortelles ». Il nous dresse un portrait de l'Afrique d'aujourd'hui, qu'il estime être aux prises avec la vision coloniale de l'histoire de la francophonie. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui aime jouer avec le feu. Eh oui, il aime nous envoyer des flèches pour nous faire réfléchir sur l'utilité même de cette francophonie internationale, ce français. Alors, il y a beaucoup de gens en France, je sais, qui le détestent. à en mourir, mais enfin il nous fait réfléchir, il veut sortir de ce conformisme de la francophonie. D'ailleurs, il y avait un autre éditeur très connu de la région de Toronto et membre de cette radio, qui est avec nous depuis 32 ans, qui avait écrit un livre, un roman, J'ai la francophonie à l'estomac. Et oui, et ça joue dur hein, pour Michael Jean. Et oui, on parlera de ça peut-être la semaine prochaine. Il y aura un prochain sommet de la francophonie et c'est là qu'on décidera du sort de Michael Jean qui est actuellement à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. On verra bien. Et le dimanche 28 octobre, à ne pas rater ça, c'est très important, une édition spéciale. C'est la journée de la langue et de la culture créole célébrée à travers le monde. Et cette année, l'équipe de Popori Show célébrera cette 36e édition en partenariat avec plusieurs médias partenaires et en liaison avec le 16e colloque international des études créoles qui se tiendra à l'Université des Seychelles, l'océan Indien. Du 22 octobre au 2 novembre 2018. D'ailleurs, on cherche des traducteurs, des traductrices. Si vous parlez un peu créole, créole mauricien, réunionnais, séchellois, martiniquais, Guadeloupe, Haïti, c'est pas toujours le même créole. Hein. Cela nous facilitera la tâche. On a un petit budget pour vous. Alors, du 22 octobre au 2 novembre 2018, cela vous intéresse à vous envoler sur les ailes de Air Mauritius ou Air Seychelles ou Air France. 16e congrès ou colloque international des études créoles à l'Université des Seychelles en océan Indien. Et d'ailleurs, nous allons inviter plusieurs têtes d'affiche du monde créole, que ce soit au Québec, en Ontario ou en Haïti, Guadeloupe, l'île Maurice. Toutes les interventions porteront sur les thèmes transversaux comme la santé, l'économie, la politique, la littérature, l'éducation, le théâtre, la jeunesse, les femmes, la musique, la danse, la gastronomie et la mode. Si cela vous intéresse, cela vous tente, madame, monsieur, vous n'êtes pas obligé d'être créole. Hein. Vous pouvez aussi nous donner votre point de vue, votre opinion sur les créoles, le monde créole. Vous avez un message d'intérêt ? Vous nous envoyez un message d'ici le 12 octobre prochain par courriel popourri@cut.fm. Et le 18 octobre jusqu'au 4 novembre, la magnifique galerie Thomson Landry du quartier de la Distillerie, qui est vouée à l'art contemporain québécois, vous invite à découvrir les œuvres des artistes talentueux et variés, Joachim Bélanger, Yann Normand, Bénédicte Parmentier. Et on avait d'ailleurs un invité la semaine dernière pour nous promouvoir un peu ses œuvres et ses talents. Alors, et à ne pas rater, la rentrée littéraire 2018, elle est sur le site www.prisedeparole.ca et là vous allez découvrir une brochette d'écrivains et d'écrivaines de renom, de talent. Et c'est très important de promouvoir les écrivains de l'Ontario français, ils sont très méconnus. Aidez-nous, aidez prisedeparole.ca et merci beaucoup à Stéphane Cormier pour cette excellente collaboration. Dans un instant, notre première invitée candidate qui nous attend quelque part. Je ne sais pas où elle est, hein. Elle nous a laissé un numéro assez bizarre. J'espère que c'est pas quelque part à l'étranger, dans les îles Canaries, quelque part. Popourri Show, si vous avez une question pour nos prochains invités, candidats aux élections scolaires, madame, monsieur, vous nous envoyez vos questions, commentaires à popourri@cut.fm. Bonne fête d'Action de Grâce.
Festival returns to Toronto, November 1st through November 5th. Experience a weekend filled with Icelandic culture. Savor the flavors prepared by renowned Icelandic chefs. Take in a free concert at the Hideout, 423 College Street. And watch a series of Icelandic short films at the Royal Cinema. Discover the secret behind Iceland's thriving design and architecture at the Spoke Club on November 5th. Experience Iceland at the Taste of Iceland Festival. For more information, visit IcelandNaturally.com or search Iceland Naturally on Facebook.
That means hello, everyone. You are all listening to CIUT Wadranota. You're listening to CIUT Radio, 89.5 Nikantro. It is placed at the frequency of 89.5.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Regardez M6 Info.
Au son des pas des gardes républicains, le cercueil, enveloppé du drapeau français, est porté, puis déposé dans la cour des Invalides. Une gerbe de fleurs aux couleurs du drapeau arménien vient symboliser le double attachement de Charles Aznavour à la France et à l'Arménie. À son arrivée, Emmanuel Macron est accompagné par le Premier ministre arménien. L'hommage est national. Le chef de l'État salue ses deux prédécesseurs. Et dans son discours, souligne la façon dont Charles Aznavour s'est installé dans la vie des Français.
Les chansons d'Aznavour sont d'abord des paroles. Et une grande majorité de Français c'est aujourd'hui spontanément poursuivre quand on commence à dire « Je me voyais déjà, je vous parle d'un temps, j'habite seul avec maman, hier encore. »
Sa famille, bien sûr, sa femme et ses enfants, et plus de 200 personnalités étaient présentes, comme Jean-Paul Belmondo ou Eddie Mitchell, ou encore un ancien champion du monde de football d'origine arménienne.
On a eu la chance d'avoir quelqu'un comme Charles Aznavour qui a fait aimer la France à tous les Arméniens.
C'était un très très bel hommage, je crois, à la mesure du talent et de l'immense artiste qu'il était.
Pour conclure l'hommage, Charles Aznavour a été salué au son de la Marseillaise. Puis, par une interprétation d'un de ses plus gros succès. Son cercueil est sorti comme il se doit, sous les applaudissements.
Hommage dimanche prochain à Charles Aznavour, à ne pas rater. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo. Le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo. Et oui, nous avons reçu beaucoup de messages, mais attention, nous ne pouvons pas tout répondre, tout faire en même temps. Nous sommes qu'une petite équipe et nous remercions Monsieur Jean-François Lheureux, qui est aussi un des candidats qui veut renouveler son mandat aux élections scolaires de la région de Toronto. Avec tous mes respects, je dois voir si on a assez de temps avant la fin de l'émission. Monsieur Jean-François Lheureux, peut-être la semaine prochaine ou avant les élections. Alors, le 22 octobre prochain, les citoyens, citoyennes de la province de l'Ontario auront à choisir leurs représentants pour les conseils municipaux et scolaires en Ontario. Et oui, si le nombre de conseillers scolaires francophones ne sera pas affecté par les changements apportés au conseil municipal de Toronto par le gouvernement de Doug Ford, notre cher gouvernement de l'Ontario, la confusion suscitée et le redécoupage de la carte électorale obligent les candidats à s'ajuster. Suite à l'appel d'intérêt de Geneviève Auger, l'une des candidates de la région de Toronto, vous êtes nombreux à avoir réagi à nos fiches promotionnelles sur Facebook, sur Twitter. C'était des fois des messages assez creux, difficiles, mais je comprends très bien la sensibilité de certains cas, de certains de vos messages, et je vous promets que je vous réserve l'anonymat. Je ne vais pas dévoiler vos coordonnées ou votre nom en public, c'est promis. Bref, les francophones en général et surtout les personnes issues de l'immigration récente connaissent mal les rouages et l'importance des élections scolaires et encore moins les élections municipales. Au-delà d'une sortie et promotion assez timide, hein, il faut bien le dire, de l'ACFO Toronto, la masse critique ne fait pas partie d'aucune stratégie visant les électeurs francophones. Par exemple, à Sudbury, château fort, bastion fort jadis de la francophonie dans le nord de l'Ontario, pas un seul candidat francophone. Eh oui, pourquoi ce manque d'intérêt d'après vous? À qui la faute? La francophonie ontarienne est en mutation. Aujourd'hui, elle a besoin des femmes, des hommes de bonne volonté, et ce, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine. Avons-nous peur du changement? Devons-nous toujours laisser la place à la vieille garde pour mener les affaires de nos écoles, nos organismes, nos institutions? Je me souviendrai toujours de ces débats musclés au studio avec la présidente, la chère Madame Couffin, et compagnie, à l'époque, de l'organisme défunt, le Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto, le CEFCUT, aujourd'hui remplacé par Via Monde. Non, 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 ce n'est pas une agence de voyage. C'est bien un conseil scolaire. Il faut bien admettre que certaines choses ont changé à certains égards, mais il reste encore des zones d'ombre qui méritent une attention particulière. Selon vos commentaires, la diversité au sein de la direction de nos conseils scolaires est une question très importante pour beaucoup de parents francophones. Une autre question importante, c'est la fin du programme d'éducation sexuelle adopté par l'ancien gouvernement ontarien qui va mettre peut-être en danger les étudiants gays, trans dans nos écoles. Reportage après reportage, étude après étude démontrent la montée de violence, du racisme, de harcèlement chez les jeunes dans nos écoles ayant des relations avec des personnes du même sexe. Depuis les incidents raciaux, vous vous souvenez, des années 90 à l'école Étienne Brûlé, en passant par des crises internes au sein de certains organismes francophones, les nouvelles voix se lèvent. Tant mieux. Une nouvelle génération de francophones engagés veut se mettre au service de la communauté francophone. Ils sont d'ici, du Québec, de la Côte d'Ivoire, de Burundi, de l'Europe, mais sont-ils bien équipés? Et seront-ils à la hauteur de la tâche? Connaissent-ils les luttes menées par les défricheurs, les vrais pionniers, pionnières de ces 40, 50 dernières années? Ou sont-ils tout simplement des arrivistes? Aujourd'hui, une fois de plus, Popourri Chaud est fier d'ouvrir son antenne à certains candidats francophones. Et cette émission, réalisée depuis 32 ans uniquement grâce aux dons de nos généreux auditeurs et partenaires, n'est qu'un tremplin pour mieux connaître les enjeux de ces élections et les priorités et visions de nos invités. Un grand merci à ceux et celles qui continuent de nous envoyer des questions, des commentaires à popourri@cut.fm ou découvrez les liens et les sites web de nos invités d'aujourd'hui en allant sur notre site www.popourrichaud.com. À bon entendeur, salut! Et oui, notre première invitée, ex-journaliste attachée de presse d'un ministère ontarien. Elle est candidate au poste de conseillère du secteur Toronto-Ouest au conseil scolaire Via Monde en vue des élections du 22 octobre prochain. Mesdames et messieurs, pour la première fois, nous avons le plaisir d'accueillir Geneviève Auger. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Alors, nous avons beaucoup de réactions, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a même un certain monsieur Jean-François Lheureux qui nous a appelé en vitesse, quatrième vitesse, pour nous dire que, comment se fait-il que je ne suis pas là, que je ne suis pas invité. Alors, je vois que vous avez une stratégie de communication. Ça fait longtemps que vous nous envoyez un message d'intérêt, hein?
Oui, en effet. Et lorsqu'on parle du manque d'intérêt pour les élections scolaires, ce n'est pas du tout le cas à Toronto cette année. Mmh. C'est vrai qu'il y a 4 ans, il y a eu, dans ma zone, il y a eu une acclamation, mais cette année, il y a beaucoup de candidats, il y a une vraie campagne, il y a un vrai intérêt. Et lorsque j'entends à l'antenne que beaucoup de parents et d'autres membres de la communauté ont envoyé des questions, moi, je trouve ça formidable. Les gens parlent de leurs enjeux, les gens parlent de leurs inquiétudes et aussi leurs espoirs. Et moi, je suis ravie de ça.
Eh oui. Alors, le conseil scolaire Viamonde, connu avant comme le conseil scolaire de district du centre-sud-ouest, est un conseil scolaire francophone dans le sud de l'Ontario et son territoire s'étend de Penetanguishene, Barrie, Oshawa jusqu'à Windsor. Et les bureaux du conseil Viamonde, les bureaux administratifs, se situent à Toronto, c'est ça?
Oui, tout à fait. Notre conseil est un petit conseil en nombre, mais nous avons une très, très grande région. Le conseil célèbre ses 20 ans cette année. Auparavant, lorsque j'étais petite, j'étais dans les écoles qui font aujourd'hui partie de Viamonde. Mmh. À cette époque-là, on faisait partie des conseils scolaires anglophones. Donc, dans mon cas, c'était the North York Board of Education. Donc aujourd'hui, il y a plus d'écoles, c'est bien, mais on a beaucoup de défis parce qu'on a besoin d'encore plus d'écoles.
Oui. Alors vous avez plusieurs priorités. On va tenter d'offrir au maximum aux auditeurs les valeurs que vous proposez, la vision, votre vision en tant que membre élu peut-être, je l'espère, aux prochaines élections. L'implication des parents. Pour vous, c'est très important d'impliquer les parents au sein du conseil.
Lorsque je parle aux parents, ils me disent tout ce qu'ils veulent, plus de transparence et plus de consultation. Ils veulent que leur conseil scolaire leur parle et discute avec eux. Et pour l'instant, ils ont l'impression que c'est très distant. Donc je pense qu'on peut améliorer les consultations en faisant des consultations plus larges et en faisant rentrer les parents un peu plus dans le processus de décision, pour pas que les familles sentent qu'ils subissent les changements. Il faut que les familles soient au courant et également partagent leurs idées et leurs priorités.
Et des fois, ça prend une crise. Je me souviens quand je suivais un peu le conseil scolaire, le CEFCUT. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce
conseil. Oui, bien sûr.
Et après une crise, c'est là que les conseillers, les responsables, les élus, les membres élus ont décidé, parce que là, c'était dans les médias, hein, les médias francophones et francophones, on ne voulait pas être à mal vu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à transiger avec la communauté francophone, y compris avec la composante immigrante, parce qu'à l'époque, dans les années 90, il y avait beaucoup de jeunes venant d'Haïti et de Somalie, par exemple, et il y avait beaucoup de frictions, beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes. Et ça a pris une crise. Alors, on ne faut pas passer par la crise pour nécessairement ouvrir les portes, mais quels sont les concepts de consultation? Comment allez-vous vous y prendre?
Déjà, au niveau des consultations, pour l'instant, il y a seul un petit groupe de parents qui sont consultés. Moi, j'aimerais que ces consultations soient affichées sur, par exemple, le guichet Viamonde qui est reçu par tous les parents. Je m'attends pas à ce que chaque parent ou chaque famille participe à ces consultations, mais au moins que les familles en aient la possibilité, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Une autre de mes priorités, c'est bien sûr l'inclusion. Notre région est la région où la francophonie grandit, elle grandit grâce à l'immigration, donc il y a des gens qui viennent de beaucoup de pays, qui parlent peut-être une autre langue à la maison, que ce soit l'arabe, que ce soit le lingalais ou d'autres langues. Donc il faut être accueillant et faire rentrer toutes ces autres familles pour que ces familles-là se sentent à l'aise et chez elles dans notre conseil, quelle que soit leur composition, que ce soit des familles homoparentales, que ce soit des familles où il n'y a qu'un parent, un parent célibataire par exemple, ou quel que soit le pays dont ils viennent, il faut qu'ils se sentent chez eux dans notre conseil et au sein de nos écoles.
Alors pour régler un peu les
problème de l'époque à l'école Étienne Brûlé, pour ne pas nommer l'école en question, j'avais pris quelques mois sabbatiques pour composer avec des artistes, des écrivains, des compositeurs de la région, mais aussi des gens reflétant la diversité de la francophonie, un projet intitulé « Où sont nos modèles ?». Parce que c'était ça un peu le problème, c'est que les jeunes ne voyaient pas leurs semblables au sein du corps enseignant et au sein du conseil scolaire. Et pour moi, c'est très important de démontrer qu'il y a aussi des gens talentueux, des professionnels dans tous les milieux qui viennent aussi d'ailleurs et qui ont leur place au soleil, comme j'aime à dire, enfin, dans les écoles ou encore dans d'autres emplois. Et ça, je pense, c'est le problématique des fois où il y a des problèmes de communication entre parents et le conseil, parce qu'ils ne voient pas leurs semblables nécessairement toujours siéger à la table où on prenne des décisions très importantes pour l'avenir de leurs enfants.
Je pense que vous mettez le doigt sur un point important qui m'a été soulevé au point de la... pendant ma campagne. Je pense déjà, depuis la crise de 90 à Étienne Brûlé, qui était donc mon école secondaire, je pense que le conseil a bien avancé. Déjà, au niveau, vous allez voir, au niveau du corps enseignant, il y a énormément de diversité. Si vous avez des enfants dans les écoles et que vous avez pu rencontrer les enseignants, il y a beaucoup de diversité. Au niveau des conseils d'école, les conseils d'école, c'est aussi très important. Et là, c'est vraiment aux parents de se présenter pour participer au conseil d'école. Donc ça, c'est une opportunité de leadership et de participation pour les parents. Donc, je sais pas, l'an dernier, moi-même, j'étais présidente du conseil d'école. Youssef Kalogo, que vous allez avoir à l'antenne un peu plus tard, hein, il était également président. Donc, c'est aussi une bonne façon de s'impliquer. Mmh. Maintenant, au niveau des conseillers scolaires, ça n'attire pas les foules. Donc il faut, c'est important aussi que des candidats se présentent. Heureusement, cette année, beaucoup de parents se présentent justement pour qu'il y ait plus de parents au conseil scolaire. Parce qu'actuellement, la moitié des gens n'ont pas d'enfants dans le système.
Vous savez, depuis 32 ans qu'on est là, qu'on fait cette émission de radio, je trouve ça formidable. Depuis 2-3 ans, je sens qu'il y a un vent nouveau qui est en train de souffler sur Toronto, enfin sur la francophonie ontarienne, parce qu'on voit de nouvelles voix, des jeunes qui veulent prendre le leadership. On voit des femmes, comme vous d'ailleurs. Je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, vous parlez toujours de cette école inclusive. Pour vous, c'est un aspect très important de votre campagne.
Bien, c'est-à-dire que j'ai pris conscience de ça, parce que je suis active au sein de mon conseil d'école depuis environ 3 ans. Mmh. J'ai appris, par exemple, qu'un papa qui était séparé a cessé d'aller aux activités de l'école parce qu'il avait l'impression que toutes les familles, c'était papa, maman, enfant, que c'était une famille traditionnelle, et il se sentait un petit peu exclu de ça. Donc, l'inclusion, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et je pense que, oui, l'école et le conseil scolaire peuvent faire des choses, mais c'est aussi à la communauté des parents d'être accueillant. J'ai aussi eu connaissance d'une maman qui était une maman célibataire à Jeanne Lajoie et maintenant à Étienne Brûlé, qui, lorsqu'elle parlait de sa famille avec les autres familles, les autres familles disaient « Oh, tu n'as pas de mari ! Oh, est-ce qu'il est mort ?» Comme si si elle était veuve, ce serait la seule raison pour laquelle elle pourrait être mère célibataire. Et ça lui donnait l'impression d'être une extraterrestre. Donc, je pense que l'école peut faire beaucoup, et l'école doit faire plus, et le conseil scolaire doit faire plus, mais c'est aussi à la communauté que nous soyons accueillants entre nous.
Et puis aussi, de temps en temps, l'école peut faire intervenir des artistes, des gens qui sont très impliqués dans leur communauté. Je sais qu'il y a un ami ici qui nous aide à faire de la radio, Unleash Legacies, qui a lancé des concours pour la fête des mères, par exemple, des concours de poésie. Et ça a un succès incroyable dans certaines écoles francophones de la région de Toronto. C'est parce qu'on sait que les professeurs, les enseignants n'ont pas toujours le temps de tout penser, tout faire, et relation avec la communauté, ça peut prendre du temps. Mais on peut trouver des partenariats, et dans le partenariat avec les têtes d'affiche de la communauté, on peut composer des projets pour améliorer le dialogue entre l'école et la famille et la communauté, n'est-ce pas?
Oui, et sur ce point, point les parents sont une ressource incroyable. Je sais, dans l'école de mes enfants à Pierre-Éliott Trudeau, il y a un papa qui est autochtone et qui a beaucoup, beaucoup aidé la communauté en venant dans la classe, en parlant de sa culture, en parlant de ses traditions. Et c'est une richesse énorme pour notre communauté, pour nos enfants. Et je sais que pour ce qu'on apprend à l'école sur les peuples autochtones actuellement, c'est tellement mieux que ce que moi j'ai pu apprendre. Moi, la première fois que j'ai rencontré un autochtone, je devais avoir 20 ans. Et à l'école, on apprenait vraiment très peu. Donc je pense qu'on a fait beaucoup, beaucoup de... on a avancé sur cette question-là. Je sais également que le mois de l'histoire des Noirs dans certaines écoles est une fête extrêmement vivante, où il y a beaucoup d'activités. Et ça, c'est aussi grâce aux parents, aux parents qui s'impliquent, qui viennent à l'école, qui viennent parler aux enfants, qui participent. Ils amènent leur richesse, leur culture et la partage avec les autres et ça nous enrichit tous.
Il y a une question justement de Yasmine de la région de Scarborough. Quelle est votre opinion sur l'absence de l'histoire antillaise et africaine dans le cursus de nos écoles?
C'est une question très intéressante. Il faut savoir que le curriculum est une question... c'est le gouvernement de l'Ontario qui détermine ce qui fait partie du curriculum. Cela dit, à l'école élémentaire, donc je pense qu'on fait de l'histoire du Canada, mais je pense qu'au niveau secondaire, on peut amener une vision plus large de l'histoire. Mais encore une fois, vu que le curriculum est une question du gouvernement de l'Ontario, je pense que c'est vraiment aux parents d'amener cette question-là. Et je pense qu'on peut le faire dans, par exemple, il y a le mois de l'histoire des Noirs, il peut y avoir une soirée, un événement, justement pour parler de l'histoire antillaise. Mais... Surtout que c'est une partie importante de l'histoire aussi de la francophonie. D'ailleurs... Donc je pense que ça a sa place au sein de nos écoles.
Oui, d'ailleurs, je rappelle, madame, monsieur, je suis avec Geneviève Auger, l'ex-journaliste et aussi attachée de presse d'un ministère ontarien. Elle est candidate au poste de conseillère du secteur Toronto-Ouest au conseil scolaire Via Monde en vue des élections du 22 octobre prochain. Et justement, il y avait un débat récemment organisé par le MOFIF sur l'identité franco-ontarienne et 90% des participants ont dit « Mais non, je ne me considère pas franco-ontarienne, je suis francophone de l'Ontario. » Et ça, c'est un débat qui perdure depuis des années, n'est-ce pas? Et comment justement aider les familles francophones issues de l'immigration à comprendre qu'ils sont partie intégrante de la communauté francophone et qu'il ne faut pas s'arrêter sur les définitions? Et ça, c'est toujours le défi, je pense, pour le ministère de l'Éducation, des fois, utiliser des termes, des mots. Comment peut-on être inclusif dans la façon de présenter la francophonie d'aujourd'hui en Ontario?
J'ai moi-même remarqué que chaque famille a son histoire individuelle, familiale. Et les gens ne se retrouvent pas nécessairement dans des définitions. Donc, il faut que nos définitions de ce qu'est la franco-ontarianité soit large, inclusive et que chacun se retrouve et se sente comme s'il avait sa place. Donc il faut avoir une définition extrêmement ouverte. Qu'est-ce qu'un francophone en Ontario? C'est quelqu'un qui parle français. Et point.
Oui. Alors, une autre question d'un membre de francophone de la communauté de Toronto, très connu d'ailleurs, qui nous écoute régulièrement. Est-ce que Mme Auger a le leadership qu'il faut? Et aussi, il y a eu beaucoup de questions, d'ailleurs, j'en poserai ces mêmes questions à notre prochain invité. Je pense qu'il y a une méconnaissance de la part de beaucoup de familles francophones sur le rôle, les responsabilités des conseillers et conseillères scolaires. Et parmi une question qui revient souvent, quel est votre lien avec les ressources humaines? Est-ce que les conseillers ont un droit de regard sur l'embauche ou qui ne pas accepter en tant qu'enseignant, professeur dans nos écoles? Alors, donc, il y a deux questions, si vous pouvez me répondre rapidement.
Donc, pour commencer, je vais commencer par la question des ressources humaines. En fait, les conseillers scolaires, les 12 personnes qui vont être élues pour assurer la gouvernance du conseil scolaire Via Monde, ces 12 personnes, en fait, n'ont qu'un employé, qui est donc le directeur, Martin Bertrand. Et ces élus ne jouent pas un rôle dans les ressources humaines au jour le jour pour tous les autres employés. Donc, ils n'ont que cet employé-là. Concernant le leadership, moi je cherche à m'impliquer dans le conseil parce que je suis moi-même maman et j'aimerais que le conseil soit plus au service de la communauté. Oui. Que le conseil scolaire écoute plus la communauté et surtout écoute plus les parents. Et donc c'est pour ça que je m'implique. Ça fait plusieurs années que je regarde ce qui se passe du côté du conseil. Je suis satisfaite de ce qui se passe dans mon école et de l'éducation de mes enfants, mais parfois je m'interroge sur les décisions qui sont prises au niveau du conseil. Donc plutôt que de me plaindre à l'extérieur, je préfère être à l'intérieur pour justement avoir un effet, j'espère, positif pour que le conseil scolaire fasse les bons choix stratégiques. Cette année, heureusement, nous sommes plusieurs parents à nous présenter comme candidats, justement parce qu'on voudrait qu'il y ait du nouveau sang au sein du conseil et que le conseil soit plus à l'écoute de la communauté. Donc moi, je suis vraiment ravie qu'il y ait beaucoup de questions et que les gens s'intéressent à ce qui se passe.
Et pour terminer rapidement, il y a Jean-Paul qui nous dit « Devons-nous empêcher les étudiants à utiliser leur téléphone portable à l'école ?»
Ben moi, ma réponse comme maman, c'est absolument. Je ne sais pas comment faire ça, mais moi, ça m'intéresse beaucoup parce que pour apprendre, il faut pouvoir se concentrer. Et c'est la maladie moderne. Hein. Il n'y avait pas ça lorsque moi j'étais à l'école. Pour moi, c'est une question très importante. Pour l'instant, mes enfants sont encore à l'élémentaire, mais plusieurs personnes m'ont parlé de ça lors de la campagne. Donc, je pense que c'est une question très très urgente à considérer.
Oui. Alors, je rappelle que vous avez un site et les gens peuvent avoir aussi accès à toutes les informations sur votre site en allant sur popourrichot.com et nous essayons de vous aider dans la mesure du possible. On est ouvert à tous les candidats, toutes les candidates. Pour vous, madame, monsieur, à la maison, vous devez vous garantir d'avoir ce qu'il faut et votre carte d'identité, citoyen canadien, n'est-ce pas, pour aller voter le 22 octobre prochain. Et les bureaux de vote seront un peu partout dans la région de Toronto ou seulement dans un certain quartier donné?
Non, c'est lors de l'élection municipale le 22 octobre, vous allez voter donc pour le maire, pour votre conseiller municipal et également pour votre conseiller scolaire. Ouais. Donc c'est la même élection au même endroit le lundi 22 octobre.
Très bien, je vous trouve très courageuse et je vous souhaite bonne chance de la part de toute l'équipe. On vous applaudit et on vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Chère Geneviève Auger, bonne chance à toute votre équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de vos amis qui vous écoutent en ce moment. Et
merci.
On se reparle très prochainement. Au revoir.
Au revoir.
À raconter pour rendre hommage à une femme noire qui était fière et s'appelait Juana. Son nom de famille était guerrière, beauté non classée.
Et oui, connue pour sa voix autant sensuelle que puissante, autant subtile que féroce, l'artiste franco-ontarienne Patricia Cano chante en espagnol, en français, en anglais, en portugais avec une facilité inouïe. Elle sera en concert le 13 octobre prochain au Al Green Theatre à Toronto, accompagnée pour l'occasion d'un orchestre de chambre de 18 musiciens, s'il vous plaît, en plus de sa troupe habituelle. J'ai une paire de billets pour vous. Madame, monsieur, cela vous intéresse? Un message rapide, popourri@cut.fm. Patricia Cano en concert, concert unique à Toronto, le 13 octobre au Al Green Theatre à Toronto.
Votre main, sauf qu'en 1920, un tel amour, une telle histoire entre hommes blancs et femmes noires n'allait pas très loin. Juana, grande sœur, amante et mère, Juana la noire, Juana guerrière. Sont aimés pendant de très longues heures, pendant de très longs mois, pendant de longues années. Ils eurent 7 enfants et après chacun, l'homme lui repromettra un mariage élégant. Sauf qu'il était faux et déjà très marié avec une autre femme.
ma guerrière.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
What are you doing on Sunday, October 14th? Why not check out the Study and Go Abroad Fair at the Metro Toronto Convention Centre, North Building? It's free and it's a great opportunity to find out how you can boost your resume by studying, learning a language, or working abroad. Come early at noon to listen to our feature seminar on scholarships. Check online at www.studyandgoabroad.com for more info.
The Sound of Your City membership drive takes place from November 12th to the 18th. However, we have a wonderful incentive for donors who make a financial donation right now. As part of our pre-early bird prize draw, our good friends at Roy Thompson Hall are offering four pairs of tickets to the October 15th presentation of Take Me to the River, a celebration of New Orleans music, featuring performances by the Dirty Dozen Brass Band, Ivan Neville, Ian Neville, George Porter Jr., Big Chief Monk Boudreaux, Lost Bayou Ramblers, and more. All you have to do to be eligible to win a pair of these tickets is donate online at www.ciut.fm by midnight Wednesday, October 13th. Winners will be determined the following day. All pre-early bird donors will also have their name entered not once, but twice into the grand prize draw of a trip for two to Iceland. So donate now at www.ciut.fm. CIUT FM 89.5, the sound of your city.
CIUT 89.5, Toronto.
Et oui, mesdames, messieurs, nous allons recevoir tout à l'heure, dans quelques minutes, notre candidat de la région de Toronto, Dr Youssouf Kalogo, candidat à Toronto-Est. Et nous remercions aussi Claudia Hébert, réalisatrice et les chroniqueuses à Radio-Canada. Elle sera ciné-franco pour présenter Roadmap et Petite Faille mercredi soir prochain. J'espère y être. Est-ce que vous avez mon horaire pour cette semaine? J'aimerais aller voir au moins deux, trois films de ciné-franco. Merci beaucoup à Marceline pour son beau message et merci à ceux et celles qui nous envoyaient des messages depuis 11 heures et qui réagissent justement à l'entretien avec la nouvelle conseillère peut-être, Madame Geneviève Auger. Merci d'avoir été là. Donc, ne pas rater Claudia Hébert et Dr Youssouf Kalogo dans un instant. Pour tout de suite, les grands titres de Radio France Internationale.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'est Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Héron.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Charlotte Lalanne.
Dans ce journal, l'armée se tient prête au Cameroun. Mobilisation importante pour sécuriser les élections présidentielles ce dimanche. 6,5 millions de Camerounais sont appelés au vote. Brett Kavanaugh est le nouveau juge à vie de la Cour suprême américaine. Après des semaines de polémiques, le Sénat a confirmé sa nomination. Quelles conditions de travail pour les ouvriers du textile au Bangladesh en cette journée internationale pour le travail décent? On l'entendra, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Enfin, on reviendra sur ces dizaines d'arrestations au Yémen. Des étudiants manifestants ont été interpellés ce samedi à Sanaa par les rebelles houthis, les rebelles qui tiennent la capitale depuis 4 ans.
RFI, la radio mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidaient de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia du Mali.
Et Et oui, la rentrée 2018-2019 est bien entamée à l'antenne. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. 32 ans déjà que Popourri Show et ses partenaires vous proposent des aventures, des escapades, des échappées, des expériences inédites entre culture et francophone. Que nous réserve la nouvelle année? Qui sont nos partenaires de choix? Quelle sera la place réservée aux écrivains, aux cinéastes, aux comédiens, aux artistes? Quels sont les enjeux? Eh oui, à ne pas rater, madame, monsieur, tout au long de l'année, nous allons recevoir des femmes, des nouveaux immigrants, des étudiants, des membres de la communauté LGBTQIA ou des personnes âgées. Quels sont vos organismes, vos médias ou vos services préférés? Chaque dimanche, Popourri Show, avec des collaborateurs, des médias partenaires, on vous invite à faire un voyage intercontinental de 11h à 13h en direct. Sur www.cut.fm. Devenez partenaire, devenez membre. Aidez-nous à garder l'antenne. Écrivez-nous à popourri@cut.fm. L'été ne se termine jamais vraiment à l'antenne. Il change simplement d'endroit.
Il me semble que...
Et oui, dimanche 14 octobre prochain, je ne sais pas où je vais être, mais nous allons tenter quand même de rendre hommage à Charles Aznavour grâce à nos radios partenaires et Radio France Internationale. Nous avons perdu un géant de la chanson française. Il est décédé à 94 ans le 30 septembre dernier. Icône de la culture française, il était connu pour de nombreuses chansons marquantes, à La Bohème, à La Mama ou Emmenez-moi. Il laisse derrière lui une discographie monumentale. La preuve, en 1996, l'œuvre intégrale de Charles Aznavour était ressortie dans un coffret collector, 33 CD pour un poids de 8 kg. Et nous l'avons. Est-ce que cela vous intéresse d'avoir une copie?
Les magiciens qui arrivent bien, les comédiens.
Ah oui, c'était un artiste complet, engagé. Charles Aznavour est une figure majeure de la chanson française, voire internationale. Dimanche prochain, 14 octobre, hommage à Charles Aznavour sur CUT 89,5 FM. Partagez-nous vos souvenirs, vos chansons préférées en nous envoyant un message à popourri@cut.fm.
Tout le pays, les comédiens. Vous voyez déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Vous voyez déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je voyais déjà, cherchant dans ma liste, celui qui le soir pourrait par leur faveur se prendre à mon cou.
Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi. La maman, tant de larmes et de sourires à travers toi, toi.
Que c'est joli, que c'est joli. Notre prochain invité, candidat, il est originaire de la commune rurale de Kourou dans la région de Baffin au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. De 1994 à 2004, il a fait ses études et travaillé en Belgique. Il a atterri au Canada en 2004. Et il vit aujourd'hui à Toronto depuis 14 ans et a activement contribué aux activités de plusieurs organisations francophones, il faut bien le dire. Il est membre du conseil d'administration du Centre francophone de Toronto. Il est également coprésident du comité de participation des parents du conseil scolaire Viamonde et président du conseil d'école de l'académie Alexandre Dumas, que fréquente sa fille, sa cadette. Il a aussi remporté avec le conseil d'école de l'académie Alexandre Dumas le prix 2016-2017 de la Commission nationale des parents francophones. Ça en fait beaucoup. Enfin, il était ingénieur de profession. Il est inscrit à l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario et au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il a également servi l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence française d'expertise technique internationale comme consultant. Parmi ses objectifs, si jamais il est élu comme conseiller. Il veut être conseiller scolaire à l'écoute des parents d'élèves de Toronto-Est pour défendre avec pragmatisme et efficacité leurs ambitions, désirs et attentes en matière de construction et équipement des écoles Via Monde. Et ça fait partie aussi peut-être des autobus scolaires où on a du mal à trouver des chauffeurs francophones. Mesdames et messieurs, dans un instant, le candidat à Toronto-Est, Dr Youssouf Kalogo. Bonjour Dr Youssouf Kalogo, comment allez-vous?
Je vais bien, merci.
Oui, alors, vous êtes très impliqué dans la communauté. On voit que vous êtes un homme actif.
Tout à fait. Je suis très impliqué dans tout ce qui touche la francophonie et les francophones de l'Ontario. Mmh.
Est-ce que vous aurez vraiment du temps pour être conseiller, nouveau conseiller scolaire, si vous êtes élu, parce que vous siégez quand même sur plusieurs conseils, n'est-ce pas, d'administration?
Mais tout à fait. C'est une très, très bonne question. Mais bon, je vous rassure que M. Youssouf Kalogo a énormément d'énergie et tout ce qui touche les francophones de l'Ontario et la francophonie, je trouverai nécessairement du temps pour m'impliquer.
Oui. Vous savez, je suis renversé, mais en même temps très heureux de voir la réaction de nombreux auditeurs nous envoyer des messages, des fois très pertinents. Pas tellement sur l'expérience des candidats, mais c'est surtout au niveau de leur propre expérience en tant que francophone, parents francophones, et leur relation avec les conseillers du passé ou les conseillers actuels des conseils scolaires, où il y a comme une léthargie chez certains conseillers scolaires, pour ne pas les nommer, qui ne veulent pas écouter toujours les préoccupations des parents francophones.
Oui, tout à fait. C'est une très, très bonne question, une question importante. La plupart des conseillers, bon nombre de conseillers en tout cas qui sont en poste sont quasi inconnus du public qu'ils sont censés représenter. Mmh. J'ai une anecdote à vous faire. Quand j'ai décidé de poser ma candidature, j'ai informé quelqu'un de la communauté comme quoi j'avais décidé de poser ma candidature. Et sa question avait été la suivante: qui est le conseiller en poste?
Oui, et c'est ça, il y a une méconnaissance, silence radio de la part de certains conseils. Encore une fois, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès depuis les années 80-90, il faut bien admettre, mais je pense qu'il faut trouver des mécanismes pour répondre aux besoins d'aujourd'hui avec les réalités d'aujourd'hui.
Tout à fait. Ben, je pense que c'est un problème d'information. Mmh. Il faut beaucoup plus informer les parents. Il faut informer le public afin qu'il soit au courant du fonctionnement non seulement du conseil, du rôle que les conseillers jouent. C'est un rôle extrêmement important et les parents doivent savoir ce qui se passe afin qu'ils puissent contribuer également de leur façon à l'avancée des affaires du conseil.
Mais vous avez dit dans vos publications, vous voulez une future école secondaire Via Monde dans l'est de Toronto, équivalente aux écoles anglophones, parce que vous pensez qu'il y a un déséquilibre actuellement entre les écoles anglophones et francophones?
Oui, tout à fait. Si vous, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder le récent rapport du commissaire au service en langue française de l'Ontario. Mmh. Le rapport, il est clair. Il y a une insuffisance d'écoles secondaires de langue française à Toronto et en particulier dans la partie est de la ville de Toronto, avec des infrastructures de moins de qualité que les écoles anglophones. Et la loi nous dit clairement qu'il faut le principe d'équivalence. C'est-à-dire qu'une école francophone qui est construite dans un endroit doit avoir les mêmes infrastructures qu'une école anglophone de la même zone. Et je pense que ce principe doit être pleinement appliqué. Il y a un besoin urgent d'avoir une école secondaire pour raccourcir la distance que doivent parcourir nos enfants pour se rendre à l'école. Dans cette vaste région, il faut le dire, c'est la plus vaste des trois régions de Toronto, il n'y a qu'une seule école secondaire qui est Étienne Brûlé. Imaginez un enfant qui se trouve du côté complètement est de cette zone-là, qui doit parcourir tous les jours en autobus pour aller à l'école. C'est vraiment un défi, c'est un challenge, non seulement pour les enfants, mais pour les parents.
Oui. D'ailleurs, il y a eu un mouvement à un moment donné des mères de parents francophones dans la région de Leslieville, Queen, qui voulaient vraiment exiger une école francophone dans leur région parce qu'ils trouvaient ça très difficile et pour leurs enfants d'avoir accès à d'autres conseils scolaires ou des écoles francophones.
Tout à fait. Et ce manque d'écoles secondaires, qu'est-ce qu'il crée dans la zone? Il crée ce problème de désert des élèves de l'école francophone au profit des écoles anglophones. Moi, je pense qu'il faut une nouvelle vision autour de la table. Okay? Une vision qui est vraiment fondée sur des statistiques, qui est fondée sur le droit, qui est fondée sur la diplomatie et une oreille vraiment attentive auprès des parents pour pouvoir trouver les solutions idoines à cette problématique-là. Il y a une urgence.
Oui, je rappelle aux auditeurs, je suis en compagnie avec le docteur Youssouf Kalogo. Il est candidat à Toronto Est pour les prochaines élections scolaires le 22 octobre prochain. Vous avez aussi parlé des efforts de levée de fonds dans la communauté scolaire pour s'assurer que les coûts des sorties éducatives soient raisonnables et abordables pour tous les parents. Comment vous allez rendre cela possible? Ça n'a jamais été fait, je pense, dans le passé.
Oui, ce que j'ai entendu dans ma communauté scolaire, il y a énormément de défis. Vous avez des nouveaux arrivants qui arrivent, qui sont à la recherche d'un premier emploi, qui n'ont pas encore cet emploi, qui ne sont pas financièrement stables. Ils ont les enfants qui vont à l'école, il y a les sorties scolaires. Les sorties scolaires sont extrêmement importantes pour nos enfants. Ils doivent participer. Mais parfois, les sorties scolaires ont un coût. Et quand vous avez 3 à 4 enfants pour qui vous devez payer, ça fait par moment trop pour quelqu'un qui est à la recherche d'un nouvel emploi. Donc, il est important, à mon avis, que les conseillers utilisent leur position pour pouvoir appuyer et soutenir les activités de levée de fonds au sein de la communauté scolaire et redistribuer ces fonds-là au profit des sorties scolaires de manière à rendre les prix des sorties scolaires abordables pour tous les parents.
Et puis, il y a un autre sujet qui m'intéresse moi particulièrement parce que je reçois souvent pas des plaintes, mais des préoccupations de la part de certaines familles qui trouvent que leurs enfants sont attablés à leur portable ou encore ils passent beaucoup de temps devant la télévision. Et à l'école, on leur donne pas non plus cette vision du monde. On leur parle seulement des histoires ou encore des sujets qui touchent à l'Ontario ou à la rigueur le Canada et peut-être un peu les États-Unis. Et il y a comme une méconnaissance, et je dirais aux États-Unis c'est la même chose. On n'a qu'à voir les médias américains, ils sont centrés sur eux-mêmes et ils sont moins ouverts au monde international. Et vous voulez intégrer le baccalauréat international au moins 60% des écoles secondaires de Viamonde pour mieux préparer les enfants à entrer à l'université.
Tout à fait, c'est une de mes propositions. Si vous regardez à l'heure actuelle, on a à peu près, 12 écoles secondaires Viamonde sur le territoire. Il y a autour de 3 écoles où vous avez la possibilité de faire le baccalauréat international. Pour moi, ça ne donne pas suffisamment de choix aux élèves qui ont envie de prendre ce programme-là. Il faut donc, à mon avis, l'étendre à beaucoup plus d'écoles secondaires de manière à ce que ceux qui sont vraiment intéressés puissent prendre ce programme-là.
Si, il y a aussi des échanges qu'on peut démarrer avec d'autres institutions dans d'autres pays pour essayer d'avoir des échanges entre les étudiants. Je sais que j'ai ma nièce qui est en Italie, à Turin, qui a passé une année fantastique dans la région de Washington pour apprendre l'anglais, mais aussi comprendre une autre communauté, une autre culture. Et je ne sais pas dans quelle mesure cela se fait régulièrement dans les écoles francophones de l'Ontario.
C'est une bonne question. Je pense que les échanges ne peuvent qu'enrichir le parcours de l'étudiant et de l'élève et que c'est une question qui devait être discutée autour de la table du conseil d'école et voir dans quel mécanisme, dans quelle possibilité on pourrait effectivement mettre en place ce genre de programme-là.
Alors, Monsieur Kalogo, avec tout le respect que je vous dois, mais vous avez beaucoup d'idées, des idées innovatrices, mais les gens me posent la question, comment va-t-il s'y prendre? Est-ce que il a vraiment un pouvoir décisionnel pour changer les choses vraiment dans les conseils scolaires, parce qu'il y a des sujets là que vous suggérez qui sont mieux traités au niveau du ministère de l'Éducation et que les conseils scolaires n'ont pas grand-chose à dire ou à proposer au ministère de l'Éducation. Comment vous allez vous prendre ?
Écoutez, le conseil, c'est des discussions autour de la table, c'est des votes. Il faut des idées, il faut mettre des idées sur la table. Le conseil travaille sur la mise en place de plans stratégiques. Dans ce plan stratégique-là, il y a plusieurs éléments qui peuvent être intégrés. Donc, j'entends profiter de ces situations-là pour proposer des idées et travailler avec l'ensemble des conseillers, les convaincre du bien fondé de ces idées-là, afin qu'ensemble, on puisse les adopter et faire avancer le conseil.
Alors, année après année, on voit qu'il y a une augmentation au niveau des élèves qui fréquentent les écoles de langue française, surtout dans la région de Toronto, à Barrie aussi. On voit qu'il y a une augmentation de familles francophones. Il y a aussi la base militaire de Borden. Il y a beaucoup de francophones, de Québécois, soldats qui vivent sur cette base. Donc, le défi que j'ai entendu de la part de certains enseignants, des gens qui sont très préoccupés par l'éducation en français en Ontario, ils n'arrivent pas à trouver des enseignants francophones qualifiés. Et ça, c'est un défi, pas seulement pour la région de Toronto, mais pour tout l'Ontario en ce moment. Est-ce que vous avez une idée pour réparer ou encore améliorer cette situation?
Well, je suis un peu... c'est un peu difficile à croire s'il n'y a pas d'enseignants qualifiés. Moi, je connais pas mal de personnes issues de l'immigration qui sont arrivées, qui ont fait la formation pour devenir des enseignants en éducation, qui ont passé le test de Viamonde, qui malheureusement n'ont pas réussi à ces tests-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, sans entrer dans une polémique, mais curieusement, ces personnes ont eu un emploi le lendemain matin au sein du TDSB. Donc, à dire qu'il n'y a pas de personnes qualifiées sur le marché, reste encore à prouver. Voilà pourquoi j'avance l'idée selon laquelle les décisions au sein du Conseil doivent être prises sur base de statistiques de droit et de diplomatie.
Vous savez qu'il y a eu toujours un certain mal à l'aise, je dirais, de la part de certains francophones dans certains conseils scolaires et aussi des organismes francophones d'embaucher des francophones venant d'ailleurs. Je ne rentrerai pas dans les histoires, mais on connaît des histoires très difficiles à digérer de la part de certains professeurs qualifiés. Il y en a trois au moins que je connais personnellement. Il y en a un qui a fait une crise cardiaque dans la région d'Ottawa qui est décédé il y a plusieurs années de cela. Deux qui ont perdu leur emploi et on leur a donné des forfaits pour qu'ils se calment. Et on connaît l'affaire de M. Abouchard qui avait traîné un conseil scolaire de langue française à la Commission des droits de la personne dans les années 80, 90. Donc il y a plein d'histoires comme ça et les gens sont devenus très sceptiques. Et c'est pour cette raison, moi j'ai des familles francophones, même françaises, qui préfèrent envoyer leurs enfants dans des écoles anglophones. Comment expliquer ce problématique ? Qui va pouvoir le régler ?
Je pense que c'est une problématique assez sérieuse et une fois de plus, je pense qu'il faut une vision nouvelle autour de la table du Conseil. Il faut du sang nouveau pour pouvoir aborder ce genre de questions avec beaucoup de sérénité afin de pouvoir trouver les solutions idoines à cette problématique. Naturellement, ces solutions ne peuvent pas être apportées par seulement un conseiller, c'est autour de la table. Au cours des discussions, en prenant en compte plusieurs facteurs pour pouvoir avoir la meilleure des solutions possibles.
Mais il faut en même temps s'assurer que si vous êtes élu, quand les personnes sont élues, qu'ils rendent compte des progrès, mais aussi des difficultés et des défis. Parce que nous avons reçu plusieurs questions à ce sujet où des gens me disent « C'est très bien de recevoir des candidats à votre émission, on vous remercie, on vous félicite, mais une fois les élections passées, quand ces gens sont élus, on ne les revoit plus dans la communauté ou à votre émission. »
Tout à fait, c'est une bonne question. Écoutez, Youssouf Kalogo est assez connu dans sa communauté scolaire. J'ai été parent d'élève à Jeanne Lajoie, parent d'élève de Lauriez et maintenant parent d'élève à Alexandre Dumas. Je suis entièrement disponible et disposé à communiquer, à échanger avec tout parent qui est intéressé. Et un point essentiel de ma candidature, c'est d'être un conseiller à l'écoute des parents. C'est ce qui implique mon implication non seulement au conseil d'école, mais également mon implication dans le comité de participation des parents dont je suis le coprésident. Donc, si je suis élu, je continuerai à travailler de cette façon-là, de manière à travailler de façon ouverte avec les parents, en toute transparence et dans le respect.
Oui. Les chauffeurs francophones en manquent pour les autobus scolaires. Vous avez une réponse pour certains parents?
C'est également une bonne question.
Est-ce que, justement, on a besoin d'avoir des chauffeurs qui parlent français?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut des chauffeurs qui parlent français. Et une fois de plus, je pense que cette question des chauffeurs de bus doit être ramenée, à mon avis, au niveau de la direction de l'éducation qui a la gestion quotidienne des affaires du conseil scolaire. Avec, bien entendu, l'appui des conseillers.
Oui. Et beaucoup de questions sur la diversité. Les gens aimeraient savoir quel est votre point de vue, votre vision sur la diversité de nos conseils scolaires. Est-ce que vous avez confiance de pouvoir changer les choses? On sent un certain défaitisme, peut-être le mot est fort, de la part de certains auditeurs qui trouvent que chaque année, chaque fois, on les entend, c'est toujours la même rengaine. Alors, je ne sais pas comment redonner confiance à l'électorat francophone afin que les familles s'engagent, aillent voter. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens sceptiques pour les convaincre ce matin?
Ben, écoutez, la diversité est très importante, c'est clair. Elle est importante parce qu'elle permet d'enrichir les débats. Et la diversité permet aussi d'analyser, d'appréhender les problèmes sous des angles assez variés. Ceci étant, je suis candidat pas parce que j'ai une couleur différente des autres candidats. Je suis candidat parce que j'ai une opinion à défendre et je souhaiterais que ma candidature soit analysée vraiment sous l'angle de ce que je pourrais apporter à la table. Naturellement, mon plus grand souhait serait que la diversité vraiment soit une réalité au sein du conseil scolaire Viamonde. Si vous regardez l'ensemble des écoles du conseil scolaire Viamonde, moi je suis très très fier au niveau des enseignants, au niveau des élèves, et cette diversité-là devait se traduire au niveau des instances dirigeantes du conseil.
Oui. Alors, le 22 octobre, c'est le grand jour. Vous vous présentez dans quelle région, encore une fois, pour les auditeurs qui viennent se joindre à nous?
Je me présente à Toronto-Est. C'est un vaste territoire qui couvre à la fois Scarborough, une partie de North York et une partie de East York.
Alors, docteur Youssouf Kalogo, je rappelle que vous siégez aussi au centre francophone de Toronto. Un jour, on aimerait bien vous recevoir à l'antenne pour parler un peu de cette nouvelle aventure avec le nouveau conseil, la nouvelle direction au centre francophone de Toronto. C'est un centre dont on en a besoin ici. C'est un peu l'épine dorsale de la francophonie torontoise, n'est-ce pas? Et je vous remercie de la part de tous les élèves, les étudiants, les professeurs qui sont autour de la table. Voilà, bravo.
Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité.
Et revenez quand vous voulez. Le micro est à vous. À bientôt.
Merci.
Docteur Youssouf Kalogo, merci.
Junto a ti.
Ah, que c'est beau la rumba. Avec Patricia Cano, madame, monsieur, je vous invite personnellement. J'espère que vous serez des nôtres. Elle est connue pour sa voix autant sensuelle que puissante, subtile, féroce. L'artiste franco-ontarienne de la région de Sudbury, Patricia Cano, chante en espagnol, en français, en anglais et portugais avec une facilité inouïe, comme vous pouvez entendre. Elle sera en concert le 13 octobre prochain au Al Green Theatre à Toronto, accompagnée pour l'occasion d'un orchestre de chambre de 18 musiciens en plus de sa troupe habituelle. Patricia Cano, une paire de billets pour vous, madame, monsieur. Envoyez-nous un message immédiatement. popori@cut.fm. Patricia Cano en concert, un concert unique, à Toronto le 13 octobre prochain au Al Green Theatre à Toronto.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adrabe la cosa, ding et dong.
Non,
ding et dong.
Écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5, Toronto.
Écoutez. Et la plus grande des qualités. Écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct. Et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nous.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. Bientôt à l'émission.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça, ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement. Rue Sarrazade, j'ai pour me tenir compagnie une tortue, deux canaris et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, je suis à l'occasion je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste.
Ah, le cher Shanaz Davour. Il s'est laissé inspirer par des faits de société pour créer, par exemple, Mourir d'aimer à la suite du suicide de Gabrielle Russier, une institutrice condamnée à 1 an de prison pour avoir fréquenté un de ses élèves de 17 ans. Il chante également en ce moment des textes très difficiles abordant des thèmes tabous, l'homosexualité, comme ils disent. Dimanche prochain, Popourri Show et Radio France Internationale rendront hommage à Shanaz Davour. Partagez-nous vos souvenirs, vos chansons préférées en nous envoyant un message à popourri@cut.fm dimanche 14 octobre prochain. Une émission spéciale en hommage à Shanaz Davour.
On est la pire, mais on le fait avec humour, enrobé dans les calembours, mouillé d'acide.
Et oui, c'était le lancement de la 21e édition, déjà, hein, 21e édition. Bravo Marcel, qui nous écoute en ce moment, de Ciné Franco. C'était vendredi dernier au cinéma Carlton, à Toronto. Et vous avez jusqu'au 13 octobre prochain, madame, monsieur. On vous donne rendez-vous des thrillers, des polars, des comédies et des drames. Il y a 19 longs métrages qui vous feront frémir, rire et voyager à travers la francophonie canadienne, européenne et africaine. Une séance de courts-métrages en présence de réalisateurs franco-canadiens à l'affiche. Bravo encore une fois à tous les heureux gagnants. Ils étaient nombreux et je sais qu'il y en a certains qui étaient là hier. Et cette année, Marceline, la fondatrice de Ciné Franco, a concocté pour vous une programmation qui inclut de nombreux courts-métrages de réalisatrices qui s'intéressent à la condition féminine. Et oui, avec ce qui s'est passé hier aux États-Unis, on en parle dans toutes les tribunes ce matin. Le public pourra également découvrir 9 courts-métrages issus de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick mercredi prochain, 10 octobre. Jocelyn Fourgue, le réalisateur de l'un d'entre eux, Au bout du compte, c'est le titre de son film, ainsi que Noël en boîte sera présent. On attend également Léa Pascal, Le combat, c'est son film, et Claudia Hébert avec ses documentaires Roadmap et Petite Faille, et Marcel Grimard qui va présenter son film La grue, et tous ces gens seront présents pour présenter leur projet respectif. Notre invitée, justement, elle est diplômée en production cinématographique des universités Concordia à Montréal et l'université York à Toronto. Elle est également réalisatrice de courts-métrages de fiction, de vidéos danse. Ses films, La règle du futur composé, tourné en 2009, et $8.75 en 2012, furent tous deux récompensés par la compétition étudiante au Festival des films du monde au Québec. Son plus récent court-métrage, Le déni, sorti en 2016, fut présenté en première mondiale dans le programme Talent tout court de Téléfilm Canada au Festival de Cannes, ah oui, avant de s'arrêter au Festival international du cinéma francophone en Acadie de Moncton et de faire la clôture de Ciné Franco à Toronto. Elle est basée à Toronto. Elle mène également une carrière de journaliste cinéma et de chroniqueuse pour ICI Radio-Canada Première. Elle sera au Cinéma Carlton mercredi soir pour présenter Roadmap et Petite Faille. Mesdames, messieurs, accueillons, pour la première fois d'ailleurs, je pense, Claudia Hébert. Oui, c'est le tapis rouge hein, pour Claudia Hébert. Bonjour Claudia.
Bonjour, oui, c'est une première fois.
Oui, on a beaucoup de plaisir ici à vous recevoir. On s'excuse pour le décalage, mais on a tellement d'invités, des gens qui veulent passer en direct. Incroyable.
C'est incroyable. Un plaisir d'être là.
Oui, alors parlez-nous un petit peu justement ce qui, avant de parler de votre inspiration, et aussi ce qui vous habite pour créer des vidéos ou encore des courts-métrages. Comment tout ça a démarré dans votre vie en tant que jeune créatrice, cinéaste?
Oui, moi, j'ai fait mes premières études dans, en danse contemporaine au Cégep, donc au Québec au Cégep, et puis à l'université en chorégraphie. J'ai commencé à utiliser la caméra, à filmer mes œuvres, à intégrer la vidéo sur scène ou à faire justement de la vidéo danse. Et ça m'a amené à faire une transition puis à aller finir mes études en cinéma. Et là, je me suis tournée vers la fiction en continuant toujours à faire un peu de vidéo danse en parallèle. Et puis bon, voilà, en parallèle de tout ça, je me suis tournée aussi vers les médias, vers le journalisme culturel. Mais oui, voilà, le cinéma, ça m'est venu un peu par détour. Ça a commencé par un désir d'être une interprète, puis d'être une chorégraphe, puis de prendre la caméra, puis finalement de devenir réalisatrice.
Est-ce que c'est une façon aussi, en regardant un peu vos courts-métrages, c'est transmettre sur film des pensées internes, cachées peut-être chez vous, que vous n'arrivez pas nécessairement à exprimer en paroles? Et là, à travers le cinéma, à travers le film, on réalise que vous avez quelque chose, un message très profond, une souffrance, une colère ou encore de la joie que vous voulez... Parce que c'est un peu fort, je trouve, quand on regarde le rythme de vos documentaires.
Oui, ben en fait, c'est des vidéos danses, hein, les deux vidéos qui sont présentées... Mmh. À Ciné Franco, je ne fais pas beaucoup de documentaires comme tel. C'est certain que quand on fait du cinéma, on parle toujours de nous d'une façon, même si le sujet est loin de ce que nous on a pu vivre, il y a toujours une grosse part de quelque chose de très intime, de très personnel. Mm-hmm. Ça, c'est certain c'est une façon de s'exprimer en tant qu'artiste, peu importe le choix du médium, ça reste un format d'expression. En même temps, ça m'est arrivé, c'est ça, comme je disais, parfois, c'est pas nécessairement quelque chose qui vient de nous. Mon dernier film, c'était l'an dernier, justement, Ciné Franco, les deuxièmes, j'ai adapté une bande dessinée. Alors là, j'empruntais une histoire écrite par quelqu'un d'autre, mais qui trouvait une résonance en moi, malgré tout. Dans les deux vidéos danses qui sont présentées cette année, Petite Faille, c'est l'idée de quelqu'un d'autre, c'est ma co-réalisatrice, Émilie Cardu-Bauquier. C'était sa création, c'était son idée, c'était sa chorégraphie. Et comme elle avait jamais fait de cinéma, mais moi, je suis rentrée dans le projet pour être justement un peu plus en charge des tâches de réalisation et puis un peu réécrire ce qu'elle, elle avait en tête. Mais là, c'est un moment où moi, j'ai pu rentrer dans son univers. Puis c'est super intéressant aussi en tant qu'artiste d'emprunter l'univers de quelqu'un d'autre.
Les deuxièmes, c'est une adaptation du roman graphique éponyme de Viane.
De Viane, exactement, une auteure montréalaise. Et j'avais eu l'autorisation donc d'utiliser son histoire pour l'amener en court-métrage qui peut être vu sur tout.tv si vous êtes curieux. Il est disponible sur Internet.
Et quelle est la réaction des gens et entre autres les Français à Cannes?
Ah! Ben, vous savez, c'est un programme de Téléfilm Canada à Talents tout court. Alors, on n'a pas droit au tapis rouge, là. On n'est pas dans le théâtre Lumière à Cannes. C'est une sortie plus confidentielle, mais c'est tellement une belle opportunité de faire ce programme-là pour aller rencontrer d'autres cinéastes canadiens qui sont à Cannes à ce moment-là, réseauter un peu avec l'industrie. Et puis, c'est sûr que c'est une belle rampe de lancement pour un film.
Comme vous savez, ici à cette émission, on veut vraiment donner la voix à des sans-voix. On reçoit des génies en herbe, comme on appelle, quand on aime les appeler, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes, de réalisateurs qui poussent comme ça un peu partout dans les raccoins de l'Ontario. Mais on les voit pas assez souvent. Ils ont pas toujours une place. Par contre, au Québec, il y a une culture cinématographique qui est là et qui est reconnue aux États-Unis maintenant et en Afrique et en Europe. Là où je passe, les gens me parlent, ils connaissent par cœur les réalisateurs québécois. Quand un jour on va faire la même chose pour les réalisateurs de l'Ontario?
Ouais, ben c'est sûr qu'au Québec, il y a une plateforme, il y a un réseau de financement aussi avec la SODEC qui n'y a pas exactement en Ontario. Alors, c'est sûr qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là pour financer les œuvres. Moi, en même temps, j'ai eu la chance en tant qu'artiste franco-ontarienne. Ça m'a donné accès à certaines sources de financement qui sont particulières à l'Ontario et qui favorisent un peu, ou en tout cas qui aident les gens dans ma situation et justement qui aident à l'émergence de l'art franco-ontarien. C'est sûr qu'on a hâte de voir quelque chose de plus d'aussi vibrant que ce qui se passe au Québec. Mais en même temps, moi, je dirais, dans les derniers 10 ans, là, le cinéma canadien hors Québec a beaucoup changé. C'est beaucoup élevé du jeune cinéma vibrant, très excitant, des films indépendants, des micro-budgets qui se font en Ontario, qui se font en Acadie, qui se font à Terre-Neuve. C'est très étonnant ce qu'on peut découvrir.
Alors, il faut rappeler aux gens que dans les années 80, on avait l'Office national du film de l'Ontario, que j'aimais dire de Toronto, parce qu'ils étaient tellement à proximité avec les artistes, avec les créateurs. Et nous avons pu, comme ça, à travers une émission, rencontrer un homme de talent en provenance de l'Égypte, Fadel Saleh, qui, après avoir entendu Fadel à l'émission, un des réalisateurs et responsable de l'Office national du film, là je vous parle dans les années 90, m'appelle, me dit: et j'aimerais bien avoir rencontré ce monsieur pour le déjeuner. Et c'est comme ça que Fadel a pu avoir d'autres films, enfin créer des films. Mais depuis que, je pense, l'Office a déménagé, n'existe plus à Toronto. En tout cas, s'ils existent, on les entend pas très souvent.
Oui, l'ONF a toujours un bureau à Toronto.
Oui.
Mais c'est sûr que le plus gros bureau est à Montréal.
Voilà. Et ça, c'est dommage, parce que on n'arrive pas à avoir cette relation de proximité avec les auteurs, les créateurs de la région de Toronto, mais aussi en Ontario. Ça, c'est un problème. Alors, parlez-nous, sans nous dévoiler tous les secrets, de ces deux petits films que nous allons avoir le plaisir de voir mercredi soir, Roadmap et Petite Faille.
Oui, alors Roadmap, c'est un petit film de 3 minutes que j'ai créé au Film Farm. Ça, c'est en Ontario. C'est un cinéaste ontarien qui a démarré ça il y a longtemps. C'est une ferme où on va faire du cinéma pendant une semaine tous les étés pour des cinéastes indépendants. Et c'est une occasion de faire du film avec une caméra 16 mm et de développer la pellicule manuellement, en sambre noir. Imaginez, là, c'est vraiment des maîtres comme de spaghettis qu'on met dans des produits chimiques et ensuite on les suspend en pleine campagne pour faire sécher. Alors c'est comme un moment de ressourcement pour des artistes, un moment de retourner au matériel, de retourner à la pellicule. Et moi j'en ai profité cette fois-là par une exploration, de me mettre moi-même devant la caméra, même si une caméra comme ça manuelle, c'est très difficile de l'opérer tout en étant devant. Et puis tout ce que vous voyez dans ce film-là qui est en noir et blanc, qui est un effet spéciaux, par exemple des split screens ou des superimpositions, tout ça c'est fait dans la caméra de façon artisanale. C'est pas du montage sur ordinateur, c'est vraiment du montage dans la caméra. C'est un processus qui est assez particulier et qui ramène un peu au début du cinéma, disons. Tandis que Petite Faille, je le mentionnais, c'était le désir d'Émilie Cardou-Bauquier, c'était sa création, sa chorégraphie. Et puis moi, je suis allée avec elle quelques jours dans un chalet au Québec avec 4 interprètes et on a exploré l'univers de ces 4 jeunes femmes-là qui jouent un peu avec quand elles étaient enfants, quand elles sont adultes et les souvenirs à la campagne. Et ça crée ce film-là, Petite Faille, qui est quelque chose comme 6 minutes dans différents lieux, en plein air, ces petits fragments-là de jeunes femmes. Voilà.
Donc, mercredi soir, à quelle heure, encore une fois, la projection de votre film?
Mercredi soir, je crois que c'est à 19h, les courts-métrages.
Très bien. Alors, vous serez là pour répondre aux questions. Je pense
avec grand plaisir.
Ce que je trouve formidable, Ciné Franco, il y a cette relation très rapprochée entre le public et les cinéastes, les artistes invités et les réalisateurs.
Moi, c'est la 3e année de suite que je présente un film à Ciné Franco. Il y avait le Démis il y a 2 ans, les 2e l'an dernier, et maintenant, c'est 2 courts-métrages. Alors, c'est un rendez-vous que je ne veux pas manquer chaque automne, aller faire mon tour à Ciné Franco.
Alors, je rappelle aux gens, encore une fois, madame, monsieur, à ne pas rater, si vous voulez aller voir, rencontrer la réalisatrice de Roadmap et Petite Faille au Ciné Franco, mercredi soir le 10. D'ailleurs, allez sur le site de Ciné Franco, www.cinéfranco.com, pour tout savoir. Et je remercie encore une fois avec plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre, revoir très prochainement. Claudia Hébert, merci encore de votre participation à l'émission d'aujourd'hui. On vous remercie.
Bonne journée.
Au revoir. Et oui, madame, monsieur, dans un instant, nous allons passer à un invité de surprise. Malheureusement, Ariel Kayabega n'est pas en forme aujourd'hui. Elle nous écoute peut-être sur Internet. J'espère que tu te remets de ta mauvaise grippe. Et nous avons reçu beaucoup, beaucoup de réactions de la part des auditeurs de la région de Toronto sur les interventions des deux candidats que nous avons pu entendre au début de la première heure et la deuxième heure de l'émission d'aujourd'hui. Et allez sur le site de Popourri Show, www.popourrichaud.com, et là vous allez avoir tous les liens nécessaires pour mieux connaître les programmes des candidats. Et je pense que nous avons un autre candidat qui se représente dans la région de Toronto dans le cadre des élections du conseil scolaire pour le 22 octobre prochain. Nous avons que 5 minutes seulement parce que c'était pas prévu. Monsieur Jean-François Lheureux, n'est-ce pas? Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Il fallait nous écrire parce qu'on aurait pu présenter un topo, votre programme, vos photos sur Facebook, vous faire connaître. Il y a des centaines d'auditeurs là qui nous écoutent.
C'est excellent, merci de m'avoir allé à l'antenne aujourd'hui.
Alors, vous êtes déjà conseiller sortant et vous voulez vous représenter. Pourquoi?
Ben, en fait, ça fait déjà 8 ans que je suis conseiller scolaire et les 4 dernières années... j'étais et encore à la présidence du conseil scolaire Viamonde.
Oui.
J'adore ce que je fais et je pense que les gens aussi apprécient ce que j'emmène à la table du conseil. Alors, oui. Je veux revenir pour un autre mandat de 4 ans.
Oui. Président actuel, madame, monsieur, de conseil scolaire Viamonde, qui représente une grande région maintenant. Hein? C'est dans la région de Penetang, Barrie, Windsor, Oshawa, Toronto. Alors, ça fait quand même beaucoup de familles francophones.
Oui, on parle de maintenant de 53 écoles et de 12 500 élèves. C'est une grande famille, 2 500 employés, dont 950 membres du personnel enseignant. Et en termes de géographie, on parle deux fois la grandeur de la Belgique.
Alors, qu'est-ce que vous avez accompli depuis que vous êtes à la présidence? Ça fait plusieurs années. Et pourquoi voulez-vous rester toujours membre élu du conseil scolaire de Viamonde?
Bien, au cours des 8 dernières années, au niveau de l'Ouest de Toronto, j'ai participé à l'ouverture de 3 nouvelles écoles. Alors, Michelin Saint-Cyr, Toronto Ouest et Charles Soriol. Alors, je considère que l'Ouest de Toronto est bien desservi et il y a une forte croissance d'effectifs. Donc, on va garder un œil là-dessus pour s'assurer là, qu'il n'y a pas de problème là, de surpopulation là, au cours des prochaines années.
Quand vous entendez des parents, parce que nous avons reçu beaucoup, beaucoup de courriels, des critiques constructive de la part des parents qui aimeraient qu'il y ait un plus grand dialogue entre leurs élus et les familles francophones. Qu'est-ce qui bloque en ce moment, M. Jean-François Lheureux? Pourquoi est-ce que tous les parents ne se sentent pas concernés et invités à participer et à innover? Parce que c'est une communauté en mutation, c'est une francophonie qui est en train de s'élargir de jour en jour. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi certains francophones se sentent exclus?
Ben, je trouve ça malheureux que les gens pensent ça. Nos écoles sont ouvertes. On considère que la diversité c'est une richesse importante dans chacune de nos communautés qui sont vraiment différentes là, à l'échelle du conseil. Alors, j'encourage toujours les gens à participer aux activités. Il y a de nombreuses activités qui se déroulent dans chacune de nos écoles aussi, et pas seulement de façon là bénévole à titre là, de parents dans les conseils d'école, mais aussi comme simplement participant actif là, à la vie scolaire. Et bien sûr, on se déplace, le conseil scolaire, on se déplace aux 4 coins là, du territoire pour nos réunions mensuelles. Alors, j'encourage tous les gens à venir nous voir quand nous sommes dans leur coin le coin de la province.
Pour les gens qui sont un peu sceptiques aussi au niveau du reflet de la diversité au sein de la direction du conseil scolaire, un dernier mot, parce que là, le temps nous presse.
Ben, il y a beaucoup de gens issus de diverses communautés, beaucoup de nouveaux arrivants qui travaillent au sein du conseil.
Alors, non, mais au nom du siège, enfin de l'équipe de la direction, je parle ici.
Il y a toujours place à refléter mieux la réalité de la francophonie dans le centre-sud-ouest. Alors, c'est pour ça. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je suis entièrement d'accord.
Oui, très bien. Alors, écoutez, on vous souhaite bonne chance. J'espère que les gens seront nombreux à participer. Je pense que cette année, je sens un vent d'énervement et les gens sont pas angoissés, mais ils sont très... Ils veulent vraiment... répondre à leurs droits, parce que c'est leur droit, c'est un droit extraordinaire qu'on a au Canada de pouvoir aller voter. Et choisissez vos candidats le 22 octobre prochain, madame, monsieur, monsieur Jean-François Lheureux, le président sortant du Conseil Via Monde, Conseil scolaire Via Monde. Je faisais une petite farce au début en disant Via Monde, ça fait penser au monde du voyage. Non, Via Monde, c'est bien un conseil scolaire, n'est-ce pas?
Oui, en effet.
Allez, je vous remercie et de la part de toute l'équipe, je vous applaudis de la part de tous les élèves, les parents qui sont ici avec nous. Et je vous souhaite bonne chance, monsieur Jean-François Lheureux. Cela nous a fait plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir très prochainement à l'émission. Au revoir.
Bien sûr, j'espère. Merci beaucoup.
Madame, monsieur, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission un peu décalée aujourd'hui. Claudia Hébert, merci d'être là. Merci à Céline Franco. On sera là mercredi soir. Geneviève Auger, candidate au poste de conseillère Via Monde pour la zone ouest de Toronto. Et Youssouf Kalogo, docteur Youssouf Kalogo, qui est candidat au poste de conseiller pour Toronto 2 Est. Et monsieur Jean-François Lheureux, président sortant de Via Monde, conseil scolaire, qui aussi se lance dans les élections pour Via Monde pour la zone ouest de Toronto. Merci DJ Devera, merci à Patricia Cano, José Durand-Lou, Radio France Internationale. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je serai peut-être là encore. Hein. On part dimanche soir pour une émission un peu spéciale. Hommage à Charles Aznavour. Bon dimanche, bonne semaine et bon ciné franco. Au revoir.
Tu me blesses, me meurtris, et te joues de moi comme de toutes choses, et dispose de ma vie.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk on Funky Fridays, Friday mornings 6 to 9 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Have you ever thought about going abroad to study, work, intern, or learn a language? Mark Sunday, October 14th in your calendar and get down to the Metro Toronto Convention Centre North Building to find out how. All the experts under one roof.